accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, le coronavirus Covid-19 met à l'épreuve les systèmes de santé. En France, les hôpitaux publics sont déjà au bord du burn-out. Depuis un an, c'est une grève inédite qui a commencé d'abord dans les services d'urgence, puis progressivement dans tous les services. Malgré quelques promesses, le personnel soignant ne se sent toujours pas entendu par les pouvoirs publics sur l'essentiel de ses revendications, à savoir plus de moyens, plus de personnel. Une crise que l'épidémie risque seulement d'amplifier. Léa Lisa Westerhoff s'est rendue à l'hôpital universitaire Robert Debré, Porte des Lilas, à Paris, spécialiste des enfants. L'hôpital, longtemps considéré comme un fleuron de l'hôpital public, commence aussi à craquer. Reportage.
Je ne sais pas si vous avez des choses à dire.
Derrière les portes d'un petit amphithéâtre, les traits sont tirés, l'inquiétude palpable.
Le SAMU ne peut répondre qu'à 11% des appels. Les délais d'attente sont énormes.
Dans la salle, une trentaine de soignants réunis pour voter la poursuite de la grève entamée il y a 5 mois. Mais ce jour-là, le coronavirus s'est imposé dans l'ordre du jour.
Là, je voulais juste hospitaliser un patient. J'appelle la cadre, elle était au bout de sa vie. Elle me dit « Ah non, on ne peut pas, enfin, il n'y a pas de place. »
Chérine Benzouide est cardiopédiatre à l'hôpital Robert Debré.
Qu'est-ce qu'on fait ? On met les autres en stand-by, enfin, les patients qui ont des problèmes cardiaques graves, on leur dit d'attendre parce qu'il faut prioriser comme ça le coronavirus. Il faut avoir les moyens de pouvoir se permettre cette priorisation parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres patients qui ont besoin de soins, comme tout le temps, et qu'on a déjà à l'état de base du mal à gérer vu le nombre de personnel et du coup le nombre de lits fermés, etc.
Hier, on a reçu un patient à 22h alors qu'il devait arriver. On avait
la crainte, c'est que cette nouvelle épidémie de coronavirus vienne totalement perturber un système de soins déjà à bout de souffle. Stéphane Daugé, pédiatre réanimateur, a démissionné de sa fonction de chef de service en janvier pour dénoncer ce manque de moyens. Exemple avec la gestion de la bronchiolite cet hiver.
Pour la première année depuis 30 ans, alors que l'épidémie était moins sévère que les 3 années précédentes, on a eu 25 nourrissons qui ont été envoyés à 200 km. Voilà, dont les parents sont allés à Rouen, Amiens, Caen, parce qu'il n'y avait pas de place en Île-de-France. Il y a un moment, il faut quand même que les gens entendent. Aujourd'hui, nous avons 2 IRM à l'hôpital Robert Debré. Pas de personnel pour les faire fonctionner le week-end. Nous avons des cohortes de patients suivis chroniques avec de l'asthme, avec du diabète, pour lesquels nous sommes à 10 000 lieues des recommandations en termes d'infirmières pour former les enfants et leurs familles.
10 000 lieues, c'est-à-dire une infirmière au lieu de 5, et ce n'est qu'un des nombreux exemples, le manque de moyens est sur toutes les lèvres. Mais après plus de 5 mois de grève et peu de résultats, beaucoup aussi ont peur que cette épidémie ne fasse passer les difficultés de l'hôpital public au second plan.
Quand tout ira bien, on va encore être les grands oubliés. Est-ce que c'est pas le moment aussi de râler un peu plus fort là ?
Noël Lalaudet est pédiatre, responsable du service mobile d'urgence à Robert Debré.
Enfin, c'est tout sur le virus. Et les gens, c'est la préoccupation des gens actuellement. Effectivement, la crise hospitalière va passer un peu en dessous. Sauf qu'il va falloir dire, oui, mais le personnel, d'accord, on est mobilisé, mais il y a un moment où le personnel... Il ne va pas pouvoir regarder là, mais comment voulez-vous que d'un seul coup, il trouve tout le personnel pour que tous les lits puissent être ouverts. Ça va être quand même un petit peu difficile.
Merci beaucoup.
Dans les couloirs de l'hôpital, partout, on retrouve les mots « en grève » affichés sur les murs. Depuis le début, les soignants n'ont jamais arrêté de travailler, mais via des collages dans les ascenseurs ou sur les murs, ils tentent de sensibiliser à leur ras-le-bol. Exemple, en réanimation pédiatrique, sur la porte vitrée, une photo, des personnes en blouse blanche sont allongées au sol avec cette inscription « au secours ». Depuis 3 mois, les infirmières demandent 4 jours de récupération supplémentaires par an pour compenser le temps consacré au passage de relais entre équipes et non comptabilisé. Sans succès. Karina Verland, infirmière référente du service de réanimation pédiatrique, a donc décidé de poursuivre la grève.
Parce qu'on n'est pas entendu du tout par la direction, parce que depuis les épidémies hivernales, depuis novembre, octobre-novembre, il y a presque la moitié des mois avec des heures sup. C'est intenable là, maintenant. Les équipes, elles sont fatiguées, elles sont épuisées, quoi. On nous en demande de plus en plus pour finalement pas de reconnaissance. Hein. Je gagne 1 800 euros, ça fait 20 ans. Je suis infirmière en réanimation. Je suis infirmière référente. Enfin, voilà, qui veut mon poste ? Personne, hein, pour ce salaire. Mais j'y crois. Moi, j'y crois à ce service public. J'y crois à l'hôpital public. Enfin, on va toujours être là pour les patients. Mais il faut qu'on nous entende, quoi. Oui, ça se voit pas parce qu'on va rien bloquer, on va rien faire. Enfin, c'est plus tenable, en tout cas.
Avant-hier, les infirmières en réanimation pédiatrique ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Désormais, elles refuseront d'assurer des heures sup pour remplacer des collègues malades. Trois couloirs plus loin, le constat d'une neuropédiatre n'est pas moins inquiétant. Isabelle Asson s'occupe de patients atteints d'une maladie génétique extrêmement rare.
Depuis le mois d'octobre, je n'ai plus de secrétariat. J'ai fait la secrétaire pendant un an. Et dans une maladie grave, incurable et mortelle à terme, où on a des espoirs de thérapie génique, etc., il y a eu suspension des crédits de recherche et je n'ai pas de psychologue. Vous vous doutez bien que des enfants qui ont toute conscience se voient se dégrader sur des années avec des parents qui vivent ça et qui ont parfois deux enfants atteints, eh bien, on n'a pas de temps de psychologue, ni pour recevoir les parents ni les enfants.
Pour l'heure, 260 millions d'euros ont été débloqués. Insuffisant selon le collectif Interhôpitaux, organisateur de la grève en Île-de-France. Eux citent le chiffre de la Cour des comptes qui appelle à augmenter le budget de 4,2% plutôt que les 2% proposés actuellement.
Et le collectif Interhôpitaux regrette qu'aucune rencontre n'ait été organisée avec le chef de l'État sur la gestion de la crise du coronavirus. La pandémie touche aussi l'Irlande qui ferme toutes les écoles, les universités, les institutions culturelles à partir de demain, vendredi et jusqu'au 29 mars. L'Irlande où là aussi l'hôpital public est bien malmené. Les syndicats tiennent un décompte journalier un peu particulier. Le nombre de patients sans lit obligés de rester sur un brancard ou sur une chaise. En octobre, le record quotidien a été battu. Puis en novembre, puis encore en janvier. Ces patients sont souvent aux urgences, mais pas seulement. Emeline Vin s'est intéressée à cette crise des brancards.
Son regard est fatigué, mais Carl Joyce arbore un grand sourire. Dossier médical sous le bras, ce quadragénaire quitte les urgences du Mater Hospital de Dublin.
J'ai fait un malaise dans la nuit, j'ai appelé une ambulance, j'ai attendu environ une heure et demie qu'un médecin s'occupe de moi. On m'a fait passer un scanner, puis j'ai attendu quelques heures sur une chaise. Le médecin est revenu avec les résultats et m'a laissé sortir.
Finalement, rien de bien grave, juste un malaise vagal. Carl aura passé à l'hôpital.
9 heures. Je pensais que j'allais rester beaucoup plus longtemps. 9 heures, c'est très peu vu la situation actuelle. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un bon jour, Dieu merci.
Carl pense à ses patients coincés pendant des heures sur un brancard, des histoires qui font les choux gras des talk shows. Celle de Kelly Talent, maquilleuse de 27 ans atteinte d'une maladie pulmonaire chronique, qui a patienté 42 heures avant d'être hospitalisée en décembre à Dublin. Celle d'Anne McNicholas, une septuagénaire venue pour une grippe et qui est restée 4 jours dans un couloir à Limerick. Avant d'accéder aux urgences de l'hôpital Connolly, il faut patienter dans un sas pour être examiné par un médecin. De l'autre côté des portes battantes, le service a proprement parlé.
Overcrowded would be the main term.
Emily O'Connor, médecin urgentiste.
We need patients to be able to... Les patients admis en hospitalisation doivent pouvoir quitter les urgences pour que l'on puisse accueillir les nouveaux arrivants. Nous subissons une crise des lits, un manque de lits à l'hôpital. Le gouvernement a admis qu'il n'y en avait pas assez. Mais si les patients ne peuvent pas être transférés, alors nous rencontrons des difficultés pour traiter les nouveaux patients.
L'urgentiste, par ailleurs présidente de l'Association irlandaise de la médecine d'urgence, aime son métier. Elle en parle comme d'un privilège, mais elle n'a pas toujours l'impression de le faire correctement.
Les urgences, c'est un environnement lumineux, bruyant. Demander à des patients déjà malades de subir un traitement dans un endroit où les lampes ne s'éteignent jamais, où le bruit ne diminue pas, où ils n'ont pas d'intimité, c'est inhumain. Ce matin, il y a des patients qui étaient déjà là sur des brancards lors de ma garde d'hier, qui attendent qu'un lit se libère. Je n'ose même pas les regarder dans les yeux quand je traverse le service. J'ai honte qu'ils doivent attendre aussi longtemps.
Dans son service, presque tous les sièges sont occupés, ainsi que les box, séparés les uns des autres par un rideau de tissu bleu qui n'isole pas grand-chose. Médecin depuis 30 ans, urgentiste depuis 20, Emily O'Connor admet qu'elle n'a jamais travaillé dans des conditions idéales, mais elle craint que la situation empire encore dans le futur.
Notre population a énormément augmenté, plus de 800 000 personnes en quelques années. Et comme partout en Europe, la population vieillit et a des besoins médicaux plus complexes.
Et pourtant, il vaut mieux être malade à Dublin qu'à Limerick ou à Cork, selon le décompte du Syndicat national des infirmières et sages-femmes, l'INMO. Cette crise des brancards résulte de la politique d'austérité qui a suivi la récession de 2008. Gel des embauches, plus assez de personnel pour s'occuper de tous les patients et donc fermeture de lits. Mais Michael Pigeon, responsable de la communication de l'INMO, ne comprend pas que la crise persiste.
L'année dernière, je ne crois pas qu'il y ait eu un seul jour où l'on a enregistré moins de 400 patients sur des brancards. Tout l'hôpital est concerné par ces problèmes de surpopulation. Même des services comme l'orthopédie se retrouvent avec des patients dans leur couloir parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. En théorie, c'est ce qui se fait en cas de catastrophe naturelle. Nous sommes un pays plutôt riche, c'est inacceptable.
L'INMO réclame le recrutement de 1 000 à 2 000 infirmières par an jusqu'en 2025. Si une catastrophe naturelle touchait effectivement l'Irlande ou une épidémie telle que le coronavirus, le syndicat n'est pas convaincu que le système de santé soit en capacité de faire face.
La crise sanitaire actuelle met en lumière les disparités des systèmes de santé européens. Dans l'Union, tous les pays ne sont pas égaux face à la maladie. En Pologne, par exemple, la lutte contre le cancer est à la traîne. Et le geste d'une députée polonaise a bien malgré elle mis ce sujet sur le devant de la scène. Joanna Lihocka a fait il y a quelques semaines un doigt d'honneur en pleine séance à la diète en direction de l'opposition. L'élu du parti au pouvoir venait de défendre une disposition polémique. Les députés du PiS, Droit et Justice, ont préféré verser une rallonge budgétaire de près de 500 millions d'euros à la télévision publique, devenue outil de propagande selon de nombreux observateurs, plutôt que de donner de l'argent pour la lutte contre le cancer. Les précisions de Thomas Giraudoux.
Manque de médecins, d'argent, désorganisation des services, le dernier rapport publié par la Chambre suprême de contrôle, l'équivalent de la Cour des comptes française, est accablant pour l'oncologie polonaise. L'an dernier, le pays a dépensé à peine 96 euros par habitant pour lutter contre la maladie, c'est près de 3 fois moins qu'en Belgique ou qu'en France. Outre le manque de financement, il est aussi très difficile de se procurer les traitements les plus efficaces. Près de la moitié de ces médicaments sont introuvables en Pologne, selon une fondation spécialisée. Et quand ils le sont, seul un groupe restreints de patients sont remboursés afin de diminuer les coûts pour la sécurité sociale. C'est le cas par exemple des nouveaux traitements contre le cancer du sein. Il faut aussi revoir la prévention. 1700 femmes meurent chaque année du cancer du col de l'utérus, faute d'avoir été dépistées et vaccinées à temps. Quant au suivi des patients, il est défaillant. Les bases de données, les informations sont incomplètes pour un patient sur 5 atteint du cancer colorectal. En résumé, une situation alarmante qui amène à un taux de mortalité beaucoup plus élevé qu'en Europe de l'Ouest. Les Polonais ont moins de chances de survie que les Allemands, les Français ou les Espagnols. Alors face à l'ampleur prise par la polémique du doigt d'honneur à la diète, adressée aussi à tous les malades du cancer, dixit l'opposition, l'exécutif a enfin réagi 3 semaines après ce geste. En pleine campagne pour sa réélection en mai prochain, le président polonais Andrzej Duda a annoncé la création d'un fonds médical. Plus de 600 millions d'euros iront au traitement et à la prévention des cancers et des maladies rares. Pas sûr que cela éteigne totalement l'incendie.
La Roumanie, elle, ne parvient pas à garder ses médecins. Ils préfèrent partir, travailler à l'étranger. Résultat, des déserts médicaux qui se multiplient. Une situation pointée par la Fédération nationale des médecins traitants roumains dans un récent rapport. Les précisions de Benjamin Ribou.
De plus en plus de Roumains ne trouvent pas de médecins traitants. Dans une commune sur 8, il n'y a même plus de médecins du tout. Depuis l'entrée de la Roumanie dans l'UE en 2007, on estime que plus de 14 000 praticiens ont quitté le pays pour s'installer ailleurs, en Europe. Résultat, la Roumanie possède l'une des plus faibles densités médicales de l'UE, 58 000 professionnels pour 19 millions d'habitants. Autrefois première source de motivation, l'aspect financier n'est plus la seule explication. Surtout depuis 2018, avec la mesure forte prise par le gouvernement social-démocrate roumain de doubler les salaires des médecins afin de les encourager à rester au pays. Un infirmier touche désormais 1200 euros par mois, un spécialiste culmine lui aux alentours des 4000 euros. Rappelons que le salaire moyen en Roumanie est de 600 euros. Si cette mesure a permis de réduire un peu le nombre de candidats au départ, la courbe est loin d'être inversée. Chez les médecins en poste à l'étranger, seuls 30% d'entre eux envisageraient un retour au pays. Parmi les étudiants en médecine en Roumanie, 50% pensent toujours quitter le pays pour leur internat. Chercheur à l'Académie roumaine, Alina Botezat s'est penchée sur la migration des médecins. Première cause de départ, d'après son étude, le niveau élevé de corruption dans le système de santé roumain. Autre raison, le manque d'opportunités professionnelles, ainsi que l'attitude décourageante des supérieurs, sans oublier le désir de vivre dans un pays avec une meilleure qualité de vie.
La décision de Donald Trump de suspendre à compter de demain vendredi tous les voyages aux USA depuis l'Europe, sauf le Royaume-Uni, déstabilise un peu plus les places financières européennes. Cette menace sanitaire du coronavirus et les mesures prises pour l'endiguer ont bien sûr des effets désastreux sur l'activité économique. Ça remet en cause toutes les prévisions de croissance. On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Alors quel peut être l'impact économique de ce coronavirus ?
Un impact à l'échelle planétaire du fait du poids de la Chine dans la production et les échanges mondiaux. On en voit déjà les conséquences en chaîne avec une sévère baisse du transport aérien et maritime, des ruptures d'approvisionnement qui affectent de nombreuses industries, la chute des cours du pétrole et l'effondrement des bourses qu'elle a engendrées. Bien sûr, l'Europe est au cœur de ces secousses puisqu'elle est très ouverte sur le monde. Les composants chinois venant à manquer, l'offre de nombreux biens industriels ou de consommation est perturbée, tandis que les exportations vers la Chine vont évidemment pâtir du ralentissement de la demande dans ce pays. On pense notamment aux ventes de machines-outils ou d'automobiles allemandes ou aux produits de luxe français. Mais l'Europe est désormais menacée par un choc de demande.
Alors, l'Europe est désormais menacée par un choc de demande. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Du fait des mesures de confinement, des restrictions de déplacement, des annulations de manifestations, des fermetures d'écoles, la consommation des ménages s'affaisse. Or, elle représente en Europe, en moyenne, les deux tiers du produit intérieur brut. Cette baisse de la demande des ménages va de surcroît entraîner une baisse de l'investissement, lui-même remis en cause par les baisses de capitalisation boursière. Bien sûr, tous les pays ne seront pas frappés avec la même violence.
Et du coup, Daniel, est-ce qu'on sait quels sont les plus menacés ?
Alors, sans conteste, l'Italie, dont l'ensemble de la population est désormais assignée à résidence, et où la Lombardie, une des régions les plus riches et les plus industrieuses d'Europe, est la zone la plus contaminée. La troisième économie de l'Union à 27, 13% du PIB total, est d'autant plus menacée que, début mars, l'OCDE pronostiquait déjà une croissance zéro pour 2020. Autant dire que l'Italie n'échappera pas à une sévère récession cette année.
Et cela, Daniel, même si l'épidémie s'arrête bientôt et que l'économie rebondit.
Selon les experts les plus optimistes, l'Europe ne peut espérer arriver à l'accalmie que connaît désormais la Chine avant la mi-avril. Cela fera en Europe continentale un trou d'air de plus d'un mois où les productions auront chuté d'au moins un quart, voire un tiers. Bien sûr, certaines activités connaîtront un rattrapage, mais l'emploi risque d'en subir des conséquences durables. Bref, mécaniquement, dans les économies principales de l'Union qui sont également les plus touchées par le virus, le produit intérieur brut se verra amputé de 1 à 1,5% sur 2020. Autant dire que l'Allemagne, dont la croissance était prévue à 0,3%, n'échappera pas à la récession. Quant à la France, pour laquelle l'OCDE espérait 0,9% de croissance, il tiendrait du miracle qu'elle ne se retrouve elle aussi en récession.
À bientôt Daniel.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Sophie Jeannin. Vous pouvez retrouver l'émission sur RFI.fr ou vous abonner au podcast d'Accent d'Europe sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.
ce samedi.